Session de théologie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 27 août 1991.
Je vous lis d'abord ce passage de saint Thomas au point de vue de la tentation. C'est donc au chapitre 6, dans son commentaire sur l'évangile de saint Jean. Vous savez que la communauté saint Jean a pris la charge de traduire ce commentaire sur l'évangile de saint Jean. Or, il disait cela pour le tenter, car lui savait ce qu'il devait faire. Alors, voilà le commentaire de saint Thomas. L'évangéliste dévoile par là l'intention de celui qui interroge, et supprimant une incertitude, il en fait apparaître une autre. Il était en effet possible de penser que le Seigneur avait interrogé Philippe par ignorance. Cependant, l'évangéliste exclut cela en disant « car lui savait ce qu'il devait faire ». Mais puisque tenter semble être aussi bien le fait d'un ignorant, c'est en effet provoquer ce dont on tirera expérience. Il apparaît que l'évangéliste conduit à une autre incertitude lorsqu'il dit « pour le tenter ». Mais il faut préciser que c'est de diverses manières qu'une personne entende une autre, au sens de la connaître par expérience. Donc tenter, sonder les reins et les cœurs. Savoir ce qu'il a en lui. L'homme tente d'une certaine manière pour apprendre, le diable d'une autre pour tromper. Notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. La parole de l'épître de saint Pierre. Mais Dieu et le Christ ne tente ni pour apprendre, parce qu'il est celui qui scrute les cœurs et les reins, ni pour tromper. Dieu ne tente personne. Épître Saint-Jacques. S'il tente, c'est pour donner aux autres une connaissance d'expérience sur celui qui est tenté. C'est ainsi que Dieu a tenté Abraham. Dieu tenta Abraham. Genèse 22, 1. Et plus loin, je sais maintenant que tu crains le Seigneur. N'oubliez jamais que saint Thomas, c'est toujours sur la Vulgate. Hein? Toutes les références de saint Thomas. Alors vous regardez la Bible d'aujourd'hui, vous voyez que ça colle pas. Pas d'importance. Au Moyen-Âge, c'était la Vulgate. La Vulgate est considérée comme garantie au sens propre. Donc il n'y a pas d'erreur. On peut s'en servir théologiquement. Et l'Église s'en est servie. Ça fait partie des diverses traductions, vous voyez. Les Septante, la Vulgate, qui sont garanties. L'Église a garanti. C'est bon de savoir. Puis aujourd'hui, la traduction se fait sur le texte ancien. Et plus loin, je sais maintenant que tu crains le Seigneur. C'est-à-dire, j'ai fait connaître que tu crains le Seigneur. C'est ainsi qu'à cet endroit, il a tenté Philippe afin de dévoiler sa réponse aux autres, les conduisant par là à une connaissance plus certaine de l'événement à venir. Donc, vous voyez, tenter peut se comprendre dans des significations diverses. Tout dépend du contexte. Ça, c'est intéressant, parce que ça montre qu'au Moyen-Âge, on était beaucoup plus souple par rapport aux mots que nous. Au Moyen-Âge, on cherchait surtout la pensée. C'est ça qui intéressait. Aujourd'hui, on est très pris par les mots et la signification des mots. Puisqu'il y a jusqu'une philosophie de la parole. Alors, il y a encore un passage intéressant pour ceux qui s'intéressent à saint Thomas. C'est dans le gouvernement divin. Question 114, article 1. Article 2, je veux dire. Tenter est-il le propre du diable? Utrum tentare sit proprium diaboli. Donc, on met ceci comme ça. Prima pars. Question 114. Article 2. Ça veut dire, prima pars. Question 114, article 2. Pour avoir les références. Alors, saint Thomas pose la question, tenter est-il le propre du diable? Il ne semble pas. On dit en effet que Dieu tente. Dieu tenta Abraham. La chair et le monde tendent aussi. On dit même que l'homme tente Dieu et qu'il tente un autre homme. Ce n'est donc point le propre du démon de tenter. C'est la première objection. Voici comment saint Thomas répond. C'est intéressant. Dans le corps de l'article, saint Paul dit de peur que ne vous celui qui tente. Et la glose interlinéaire ajoute, c'est le diable dont le rôle est de tenter. Ça, c'est très bien. Ides diabolus cuius officium. L'officium du démon, c'est de tenter. Sauf que quand le démon n'est pas arrivé à tenter, il est de mauvaise humeur. Et ça lui arrive souvent. C'est pour ça qu'il est rouge-feu, c'est-à-dire toujours en colère. Alors, je vous lis le corps de l'article, comme ça au moins, une fois on prend une petite référence à saint Thomas. Tenter, c'est faire une expérience sur un autre. Mais le chat et la souris. Quand vous regardez le chat et la souris, hein, le chat poursuit la souris, la lâche, la souris pouille, il la reprend. Tantare, il tente la souris, il fait l'expérience. Quand le médecin tape avec un petit instrument sur votre plante des pieds, il va voir la réaction. Tentez. Quand on vous pique, on va voir la réaction. Et quel est le bon mot qui va sortir à ce moment-là? Comme tu es gentil. Tenter, c'est faire une expérience sur un autre. Si on le fait, c'est pour découvrir quelque chose à son sujet. La fin immédiate de tout être qui tente est donc l'acquisition d'un savoir. On tente pour savoir. Mais parfois, au-delà de ce savoir, on cherche quelque autre fin, bonne ou mauvaise. bonne quand on veut savoir où en est quelqu'un au point de vue de la science ou de la vertu afin de le faire croître. Mauvaise quand on veut savoir cela pour le tromper ou le renverser. Accroche-pied. Tenter. Et interroger, d'une certaine manière, c'est tenter. À l'examen. Je vous interroge pour voir un peu ce que vous savez. Je tente. Je sais très bien, moi, mais je veux savoir ce que vous savez. Tenter. Obliger l'autre de sortir de sa léthargie. Quand vous touchez une chrysalide, qui a la couleur de la terre dans laquelle elle est, ne bouge pas. Est-ce qu'elle est morte ou vivante? Vous la touchez. Tentez. Cela dit, on comprend comment on peut attribuer de diverses manières à quelqu'un le rôle de tentateur. En effet, parfois, on dit de l'homme qu'il tente, seulement parce qu'il cherche à savoir. On dit alors que tenter Dieu est un péché, parce que l'homme se comporte comme s'il doutait et voulait expérimenter la vertu de Dieu. D'autres fois, l'homme tente pour aider, d'autres fois pour nuire. Le diable, au contraire, ne tente que pour nuire, en précipitant dans le péché. Sous cet aspect, on dit que son rôle propre est de tenter. En effet, si l'homme tente quelquefois dans ce même but, il le fait en tant que serviteur du diable. De Dieu, on dit qu'il tente pour savoir, mais c'est pour signifier qu'il veut faire connaître quelque chose à d'autres. Le Deutéronome dit donc, « Votre Seigneur Dieu vous tente, afin de faire savoir ouvertement si vous l'aimez. » On dit aussi que la chair et le monde tentent instrumentalement ou matériellement des affiches, tentent. En tant qu'on peut connaître ce qu'est un homme selon qu'il suit les concupiscences de la chair ou leur résiste, et en tant qu'il méprise les réussites ou les adversités du monde, le diable s'en sert aussi pour tenter. Donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que tenter se dit de multiples manières et que la finalité de tenter, c'est pour savoir. C'est appliqué dans presque toujours. Quand le démon nous tente, il veut qu'on lui livre un secret. Ce qu'il a voulu. Ève livre un secret. Le secret, que tout est bien, qu'il y avait là quelque chose d'étonnant, de curieux, et lui voulait savoir. Or, ça relevait de la foi, de l'espérance et de la charité d'Ève. Donc, il voulait connaître. Quand on est très curieux, il y a comme ça des gens qui sont très curieux, ils veulent tout savoir. Il y a envie commune, ça se voit tout de suite. Alors il tente. Il vous met dans une situation difficile. Quand on a mené la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, à Jésus, au petit matin, au temple, on a voulu tenter Jésus. Subir une épreuve. Savoir ce qu'il ferait. On l'a coincé. On tente quelqu'un. On le coince. On le met dans une situation impossible. S'il dit blanc, on l'accusera. S'il dit noir, on l'accusera. S'il dit oui, s'il dit non. C'est tenter quelqu'un. On a tenté Jésus. On l'a mis dans une situation impossible. Vous voyez, c'est pour que vous compreniez mieux ce mot tenter, puisque c'est le thème de la session. Nous allons regarder progressivement quelques questions importantes. Pourquoi avoir ressuscité le fils de la veuve de Naïm ou Lazare? Pour eux, ce n'était pas très merveilleux. C'est plutôt une épreuve. La terre est un temps d'épreuve. Ils sont bien morts. Ils ont tout offert à Dieu. Et voilà qu'on les réveille. Et voilà, il faut continuer. C'est une drôle de grâce. Pour eux, c'est une très drôle de grâce. Pour la mère, c'est merveilleux. Pour les sœurs, c'est merveilleux. Mais pour Lazare et le fils, remarquez que le fils était encore jeune, tandis que Lazare. Vous voyez ? Alors, comprenons. Dieu les réveille, les ressuscite. Pour la mère, pour les deux sœurs, et pour que puissent continuer de croître dans l'amour et offrir une seconde fois leur vie. Je crois qu'on peut dire ça. Quand Dieu nous met tout proche de la mort, qu'on entend les médecins qui disent « Oh, je crois qu'il ne s'en tirera pas. » On ne peut rien exprimer, on entend tout. Et là, on voit des gens qui pleurent. Oh, médecin, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez pour en tirer. C'est très important. Les indis, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier Dieu. La médecine ne veut plus rien. À ce moment-là, on est bien heureux. On offre toute sa vie à Dieu. De se réveiller face au Christ. On se réveille face au médecin. C'est pas arrivé, ça. C'est pas une drôle d'expérience. Et le Seigneur vous remet sur pied pour dire continue. Une seconde fois passer par là pour offrir toute sa vie et entendre le médecin qui dit sauf si c'est une mort accidentelle, alors il n'y a pas de médecin, ça se fait plus rapidement, mais une mort lente, aujourd'hui il y a beaucoup de morts lentes, parce qu'on guérit à moitié, on guérit d'un bobo pour augmenter l'autre, vous savez bien, ça c'est le chic de la médecine d'aujourd'hui. Alors, on guérit un aspect, puis l'autre aspect continue. Et Dieu permet ça pour qu'on offre plusieurs fois sa vie. Alors, autre question. Pourriez-vous préciser la distinction de la nature et de la grâce? Je ne peux pas faire un cours entier sur la grâce. Et je peux quand même préciser quelque chose d'extrêmement important qui est dans l'évangile de Saint Jean. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. C'est dans le prologue. Faites lire, si vous avez l'évangile là, prologue de Saint Jean, pour que je le cite bien. Lorsqu'il est dit, vous êtes né de Dieu, ni de la chair, ni du sang, ni du vouloir humain. C'est un texte important. dans le prologue. Il est enfant de Dieu. Vous l'avez? Dites-le.
Ceux qui ne sont nés ni du sang.
Dites fort pour que tout le monde entende.
Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné la force de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne sont nés ni du sang, ni du désir de la chair, ni du désir d'un homme, mais de Dieu.
Ni du désir d'un homme. Mais de Dieu. Prologue de Saint Jean. Donc, c'est net dans l'évangile de Jean, à travers toute l'écriture, mais spécialement dans l'évangile de Jean et dans Saint Paul. On parle de deux naissances. Une naissance de l'esprit, de l'eau, une essence de la chair. La naissance de l'esprit et de l'eau, c'est la naissance à la vie divine. Vous êtes né de Dieu. C'est la naissance dans la grâce. Avec le baptême, nous naissons à la grâce de Dieu. Quelqu'un qui se convertit, qui n'a jamais été baptisé, et qui se convertit, c'est-à-dire qui croit que Jésus est bien fils de Dieu. Il reçoit la grâce de la foi. En Dieu et dans le Sauveur, le Christ. Et par sa foi, il est justifié. Abraham a été justifié par sa foi. C'est-à-dire que par la foi, il a reçu la grâce. Et puis, il y a la naissance selon la chair. Procréation qui implique la conception biologique de l'union de l'homme et de la femme, qui implique la création de l'âme. Qui implique dans la conception biologique et la création de l'âme à l'intérieur de l'embryon un lien avec Adam et Ève qui fait que nous naissons dans le péché. C'est pour ça que cette procréation implique la communication de la nature humaine, implique la culpa, la faute originelle, et dans la nature humaine, il y a donc les deux, conception biologique et création de l'âme humaine. Voilà la communication de la nature humaine. Conception biologique, les parents qui s'unissent. Conception biologique, la fécondation, la fécondité. La création de l'âme. À ce moment-là, on est en présence même si c'est à l'état embryonnaire, d'un être nouveau au point de vue humain. Cet être nouveau, de fait, naît avec la faute originelle. Et cette faute originelle implique les deux, la faute qui est dans l'âme on dira faute de nature, elle n'est pas personnelle, et les conséquences de cette faute qui sont les trois concupiscences. Les trois concupiscences qui sont dites dans la première épître de Saint Jean. On reviendra sur ce texte. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie. Nous portons en nous, parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, indépendamment de notre volonté, une faute originelle qui a été effacée par le baptême, mais les conséquences de cette faute, les trois concupiscences, demeurent en nous. Donc vous voyez, c'est très complexe. Le petit homme qui vient de naître, le tout petit enfant en lui, la nature humaine qui va se développer. On verra le développement du corps et l'âme reste cachée. Il y a une âme spirituelle qui anime le corps. Et il y a les trois concupiscences. Je ne peux le dire que grâce à la foi. Je peux évidemment constater qu'il y a dans tout être humain un certain déséquilibre. C'est vrai. Une propension au sensible. Un irascible effrayant. On dira, ça vient de qui ? Du grand-père ? Jamais du père. Du grand-père, de la grand-mère. Ah, puis de ce vieil oncle, cet assassin. Irascible. Il y a des gènes. Et une colère effrayante. Mais on n'en parle pas de ça. C'est la mère qui dit ça. Oh, il y a de la ressemblance avec eux, tu sais. C'est de ton côté, ça. C'est bien évident. Il y a tout ça dans un petit être humain. Et puis, par le baptême, la grâce qui efface la faute et qui donne. La grâce, participation formelle à la nature de Dieu. Par la grâce, je suis enfant de Dieu. Par la grâce et le baptême, je suis lié au Christ. Je suis membre du corps mystique. Du Christ. Et de la grâce émane la foi, l'espérance, la charité. La grâce est reçue dans l'âme spirituelle. Dans l'âme qui n'informe pas le corps et qui est esprit. c'est la même âme qui informe mon corps et qui reçoit la grâce. C'est le propre de l'âme humaine, ça. Dans l'âme humaine, il y a quelque chose d'immatériel. C'est pour ça que substantiellement, mon âme humaine est immatérielle. Elle est spirituelle. Et de cette âme, ou plus exactement, dans cette âme spirituelle, la grâce est reçue. Et la grâce me lie à la très sainte Trinité. La source première de la grâce, Trinité. La grâce est trinitaire. Elle me lie au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et Jésus en est l'instrument. Instrument conscient, instrument conjoint. Et c'est dans ce sens-là que ma grâce est chrétienne. Ça, c'est le patrimoine de l'Église. Ce que je vous dis là, c'est de foi. Ce n'est pas une conclusion théologique. Vous n'y comprenez rien, moi non plus, mais c'est très bien, c'est la foi. Et ça repose sur toute l'Écriture. C'est l'Église, progressivement, qui, dans les divers conciles, a précisé ça. L'âme spirituelle reçoit la grâce qui m'unit à la très sainte Trinité. Et le canal entre la très sainte Trinité et mon âme, c'est l'humanité sainte du Christ. C'est l'âme du Christ. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Notre grâce est une grâce chrétienne qui nous lie au Christ et par lui à la très sainte Trinité. De cette grâce émane, c'est-à-dire jaillit, provient la foi. Qui est reçu dans l'intelligence et non pas dans la raison. À souligner bien ça, que toutes les erreurs viennent de là. La foi est reçue dans l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond et non pas dans l'intelligence qui raisonne. La foi est au-dessus de tout raisonnement. C'est une lumière divine dans la totale obscurité. Et qui me permet de faire un acte de foi sous le souffle de l'Esprit Saint. De la grâce va émaner l'espérance et la charité qui toutes deux sont reçues dans la volonté. Intelligence et volonté proviennent de l'âme spirituelle. Ce sont deux puissances, des puissances vitales. Par où je vis ma vie de pensée. Quand je pense, cogito, quand je pense, c'est mon intelligence qui est en acte. Quand j'aime, c'est ma volonté. Quand je désire, c'est ma volonté. Et donc, l'espérance et la charité vont venir de l'intérieur. surélever cette puissance d'aimer, de désirer, qui est la volonté. Et me permettre de poser des actes d'espérance et des actes d'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. La charité regarde directement la très sainte Trinité. L'espérance regarde directement la très sainte Trinité, ainsi que la foi. Les trois vertus théologales ont pour objet, pour fin, la très sainte Trinité, à laquelle j'adhère directement. Je suis en connaturalité avec la très sainte Trinité par la grâce. Je ne suis plus à l'extérieur de la famille de Dieu, je suis introduit à l'intérieur, comme un enfant bien-aimé, et non pas comme un petit sauvageon. C'est l'exemple que prend le Père de l'Église. Avant la grâce, je suis un petit sauvageon. Je ne pénètre pas dans la famille divine, qui est la très sainte Trinité. Mais dès que je reçois la grâce, le mystère de Dieu s'accomplit en moi, et moi en lui. Et je suis uni personnellement, intimement, par la foi, par l'espérance, par la charité, au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint. Ma vie surnaturelle est trinitaire. Et cette vie trinitaire se réalise par l'intermédiaire de Jésus, qui est le grand prêtre. Et je peux aimer le Père avec Jésus, en lui et par lui. Je peux m'appuyer sur le Père avec Jésus et en lui. Et mon intelligence adhère à la lumière de Dieu par le Christ. La nature humaine, c'est ce que nous recevons de nos parents avec notre âme créée par Dieu. N'oubliez jamais ce texte de la Genèse, lorsque Ève met au monde son premier enfant, Caïn, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle ne dit pas de par Adam. Non, de par Yahvé. Parce que, en justice originelle, la grâce aurait été donnée en même temps que la conception humaine, c'est-à-dire en même temps que la création de la grâce. C'est pour cela qu'on distingue la grâce chrétienne qui m'est donnée par l'intermédiaire du médiateur, grand prêtre Jésus. Jésus est le médiateur entre la très sainte Trinité et mon âme. Je distingue la grâce chrétienne et la grâce de justice originelle. La grâce chrétienne, c'est la grâce qui m'est donnée par le mystère de la croix, par le mystère du Christ, qui m'est donné par la rédemption. La grâce de justice originelle, c'était celle qui était avant le péché. Adam et Ève ont été créés, du moins leur âme a été créée par Dieu avant le péché. Cette âme avait cette grâce de justice originelle. Adam et Ève, avant le péché, étaient des enfants bien-aimés de la très sainte Trinité. Ils vivaient dans la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient pécher. Parce qu'ils avaient un libre arbitre, une liberté qui leur permettait d'écouter Dieu ou de tourner le dos à Dieu par la tentation et d'écouter le serpent. Les anges ont été créés par Dieu en grâce de justice originelle. Les anges n'ont pas la grâce chrétienne. C'est pour ça que pour les anges, Jésus est leur roi, mais Jésus n'est pas leur père. Jésus n'est pas source de leur grâce. Leur grâce est une grâce de justice originelle. C'était donné directement par la très sainte Trinité. Le démon a donc été créé dans la foi, l'espérance et la charité, dans une grâce de justice originelle. Et le démon, par orgueil, a refusé d'accepter ce que Dieu lui révélait. L'ennemi numéro un de la foi, c'est l'orgueil. Le démon le sait. Il essaie toujours de nous maintenir dans l'orgueil pour que ce soit très très difficile de croire et que petit à petit on aime mieux l'exaltation de sa propre intelligence géniale que de croire et on vit dans une sincérité orgueilleuse. Les orgueilleux peuvent très bien être sincères. C'est pour ça qu'ils sont quelquefois très sympathiques. Pas très drôle de vivre avec eux, mais de les rencontrer. L'orgueil, très souvent, nous met dans la sincérité et dans le refus total de la vérité. On ramène tout à notre orgueil. Puisque pour nous, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'obstacle numéro un de la foi. Presque toujours. C'est par orgueil qu'on refuse la foi. Alors comment, devant un orgueilleux, on peut le ramener à la foi, c'est par l'amitié. Je vous l'ai déjà dit. C'est par l'amitié. Parce que par l'amitié, on pourra badiner avec cet orgueilleux. Rire un petit peu, parce que les orgueilleux sont ridicules. Très très vite, ils sont très vite ridicules. Ils croient tout savoir. Alors il faut dégonfler la baudruche. Et on peut le faire en badinant. Mon vieil ami, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Alors on cherche la rousse, puis on prend le mot le plus tordu qui soit. Hein, dis un peu. Là, on commence à dégonfler la baudruche. Dis-toi, tu sais pas tout. Tu sais un petit secteur. C'est déjà bien. Alors, si tu existes, il peut y avoir un secteur un peu plus grand que toi. Tu as un Larousse beaucoup plus complexe que le nôtre. Un mythe dans Larousse. Extraordinaire. Et il sait des quantités de choses que nous ne savons pas. Il peut nous les communiquer. En demandant de les recevoir pour voir si on a confiance en lui. On témoigne notre confiance à Dieu en croyant en Dieu. C'est ça. Ce qu'il y a de si grand dans la foi, c'est une épreuve, mais qui nous agrandit. Parce qu'on peut faire totale confiance en Dieu par la foi. On peut redevenir comme un tout petit. C'est pour ça que la foi réclame de nous une petitesse divine. Pas un infantilisme, pas du tout. Mais une petitesse divine qui fait qu'on sait que Dieu passe toujours devant nous. Et on respecte cela. Donc, je crois que vous voyez bien la différence entre nature et grâce. La grâce nous oriente vers la vision béatifique. La nature nous oriente vers une recherche de vérité et de bonheur. Nous avons un besoin naturel de bonheur, donc d'amour, d'aimer et d'être aimé. Et nous avons soif de vérité. Ça, c'est le désir naturel de notre âme spirituelle. Nous avons besoin de bonheur. Par la grâce, nous savons quel est ce bonheur. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est. Un jour, notre grâce se transformera en une grâce de gloire. Et nous verrons Dieu tel qu'il est. Et nous vivrons sa vie à notre manière. C'est sa vie que nous vivrons. Dans la vérité et dans la plénitude de l'amour. Dans une gratuité absolue. Grande manière de distinguer nature et grâce, c'est par le point de vue de la finalité. La grâce se termine à la vision béatifique, la nature à l'amitié humaine, à la véritable amitié humaine, et une soif. Tant qu'on le peut. Quel est le pouvoir du démon sur notre vie? Peut-il tuer quelqu'un? Un très grave problème, ça. Le père Finet, que vous connaissez tous ce nom, je crois, qui a été le père spirituel de Marthe. Le père Finet a dit était terriblement secoué. Parce qu'il était persuadé que Marthe ne quitterait cette vie que lorsque son directeur spirituel viendrait donner la permission. Il me l'a dit, et il l'a dit à 36 personnes. Il était sincère quand il disait ça. Et Dieu a fait autrement. On aurait pu lui dire, Père, c'est pas sûr ce que vous dites. Une fois j'ai hésité, j'ai dit c'est pas la peine. Saint Thomas nous dit qu'il faut corriger les gens quand on est sûr qu'ils comprendront. Autrement, on ne les corrige pas. C'est pas la peine. C'est dans ce sens que toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans un cours, on sait, tout le monde entre pour entendre un exposé qu'on espère être la vérité, qu'on cherche à être la vérité. Alors on le dit devant tout le monde. Certains sortent joyeux, libérés, d'autres sortent furieux. Dans une correction fraternelle, on est un à un. On sait que telle personne pense telle, de telle façon. On ne va pas la contrarier. Sauf si elle le demande. Toujours est-il que le père Finet a trouvé Marthe morte. Il est resté pendant une heure, espérant que ce n'était qu'une mort apparente. Il a supplié la Vierge Marie. Ça a dû être une heure d'agonie terrible. Et il dit avoir entendu une voix qui était celle de Marthe, qui lui disait « Il m'a tué. » Marthe n'a pas dit, tu vois, pour ce que j'ai entendu, le démon m'a tué, mais il m'a tué. Et la veille, le jeudi soir, c'était la cérémonie où Marthe récitait le chapelet avec quelques membres du foyer, le père Finet, quelquefois, quelques prêtres, je récitais ce chapelet. De nombreuses fois. Puis Marthe communiait. Et j'ai donné la Sainte Communion à Marthe. De nombreuses fois. Puisque chaque fois que j'y allais, le père Finet, très gentiment, me disait, donnez-lui la communion. Et Marthe entrait dans une extase. Elle n'était plus présente. Et elle vivait la passion de Jésus. Du jeudi soir au lundi matin. Et Marthe avait dit ce dernier jeudi soir, il m'a dit, le démon, qu'il me poursuivra jusqu'à la fin. Et il mourra. Ça, je n'ai pas entendu de Marthe, j'ai entendu que du père Finet. Alors, la grosse question, le démon peut-il directement tuer quelqu'un? Vous allez me dire, tout dépend de la permission de Dieu. C'est vrai. Tout dépend de la permission de Dieu. Parce que le démon, vous savez, il aurait vite fait de nous égouiller tous. Ce serait très très simple et très très rapide. Vous n'inquiétez pas là-dessus. Mais le bon ange gardien est là. La Vierge Marie est là. la volonté de Jésus est là, qui limite le pouvoir du démon. Il est dit dans le livre de Job, très bien, tu peux y aller, et il va fort, hein. Tous ses biens, tous ses enfants, il reste rien, Job sur son fumier. Même pas de petite maison. Tu as permis à Job de faire tout ça. C'est dit dans l'Écriture. Mais tu ne pourras pas toucher à sa vie. C'est un texte très important pour ce qui nous regarde. Il est bien évident que le démon peut nous tuer. Il a le pouvoir. Facile. Petite chiquenaude. Il nous enverrait, vous savez, balader loin. Il a une puissance extraordinaire. Mais Dieu limite sa puissance. Et sa puissance vient de Dieu. Puisqu'il est une créature. Dieu est infiniment plus puissant que le démon. Et Dieu laisse au démon beaucoup de puissance pour que nous ayons constamment recours à la toute-puissance de Jésus. Dès que nous avons un tout petit peu peur du démon, ça peut arriver. C'est pas anormal d'avoir peur du démon. C'est normal. Celui qui n'a jamais peur du démon, il lui manque un peu de sensibilité. C'est un robot. Parce que le démon est une créature beaucoup plus intelligente que nous. Mais nous savons qu'il y a le secours de Dieu, le secours du Christ. Nous sommes gardés in manus tuas. Nous sommes dans les mains de Dieu. Et selon l'Écriture, Dieu ne laisse pas au démon le pouvoir de tuer directement quelqu'un. Il se sert tout le temps de quelqu'un. Ce que je crois même pour Marthe. Pas du tout impossible. Il n'y a pas eu beaucoup de témoins. On a refusé une autopsie pour savoir si elle avait été étranglée de telle ou telle manière. Le seul témoin avec le père Finet. Mais le père Finet était tellement ému. C'était M. Barès qui m'a dit, c'était terrible de la voir. Elle était comme quelqu'un qu'on a étranglé. Le démon, de temps en temps, l'a jeté en bas de son lit. Ça, c'est autre chose. Le démon peut vous le faire seul, ça. Mais ce n'est pas impossible que le démon l'ait tué. C'est possible, si Dieu l'a permis. Si Dieu a laissé au démon ce pouvoir. Alors là, on touche, vous voyez, un très grand mystère. Le démon a un pouvoir sur notre univers. Il y a des grêles. Il y a des orages qui peuvent provenir du démon. Pas dire du tout, on connaît maintenant les lois de la nature, et donc le démon ne peut plus rien sur notre univers. Pas du tout. On ne connaît pas les lois de la nature de cette manière-là. On sait qu'il y a toujours, toujours, ce que les anciens disaient, la plupart du temps, ça se réalise comme ça. On ne peut pas le savoir de façon absolue. Parce que la matière reste indéterminée. Donc je ne peux pas le savoir de façon absolue. Et il y a une marge d'indétermination. Et le démon s'en sert. Je ne dis pas que tous les orages viennent du démon. Non, 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 non. c'est possible, ce n'est pas impossible. Voilà ce que veut dire le théologien. Vu que Dieu laisse aux démons un très grand pouvoir sur notre univers, sur la vie des êtres vivants, sur le psychisme de chacun d'entre nous, notre imaginaire. Le démon peut très bien l'agiter, vous savez. Le démon est un psychologue de premier ordre. Il connaît tout. Tout le conditionnement de notre vie. Rien des secrets profonds de notre intelligence et notre volonté. L'orientation profonde de notre vie, notre finalité, échappe à la connaissance du démon. Mais notre conditionnement, il le connaît parfaitement. Le conditionnement des images, de notre santé, de notre nervosité, il connaît ça parfaitement. C'est très bien qu'après une journée très chaude, on est beaucoup plus nerveux qu'après une journée froide. Il sait très bien qu'après un bon repas, avec du vin généreux, et du champagne en plus, et du cognac, on est